Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, l'expression « décrocher la lune » prendra-t-elle un jour tout son sens ? On peut se poser la question car depuis peu, la bataille spatiale internationale a repris de plus belle concernant ce satellite de notre planète Terre. Sondes, robots, vols habités, chaque pays y va de ses spéculations. Alors aujourd'hui, pour nous en parler peut-être un peu plus en détail, Thérèse Encrenaz est avec nous dans notre studio à Canal Académie. Thérèse Encrenaz, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez pouvoir nous donner quelques détails sur la Lune. On s'y intéresse de nouveau, enfin on s'y est toujours intéressé, mais là il y a comment dire, un intérêt particulier, surtout que la sonde spatiale SMART, sonde spatiale européenne, vient de s'écraser, mais c'était une mort prévue, sur la Lune. Et justement, de cette sonde, on a pu récupérer quelques informations dont nous allons pouvoir en parler. Mais alors, peut-être tout d'abord, parler de la Lune comme un intérêt politique. De nouveau, on s'y intéresse. Quelques pays tels que le Japon, la Chine, l'Inde, les États-Unis et peut-être l'Europe veulent de nouveau mettre le pied sur la Lune.
Oui, en effet, on assiste à un vaste programme lancé un petit peu par toutes les agences nationales et internationales qui vise en fait, dans bien des cas, à envoyer l'homme sur la Lune à nouveau. Et là, c'est clair que les enjeux dépassent de loin l'enjeu scientifique.
Parce que voilà, on l'a déjà fait.
Premièrement, on l'a déjà fait. Ensuite, on peut faire énormément de choses avec des vols robotisés. C'est-à-dire qu'un orbiteur, donc un vaisseau en orbite autour de la Lune ou d'une planète, ou un module qui se pose et qui fait des analyses directement, in situ, comme on dit, ça apporte énormément d'informations sur le plan scientifique. L'envoi de l'homme n'est pas, personnellement, et beaucoup de mes collègues pensent comme moi, c'est souvent pas justifié par la science. C'est justifié, évidemment, pour des raisons politiques. Et la course à la Lune est évidemment politique.
Alors de nouveau, on se remet à vouloir reposer un pied sur la Lune. Alors même l'Inde s'y met,
oui.
Également les Japonais, et donc les Américains aussi. Et les Européens dans tout ça alors, puisque finalement on cite le pays voisin, mais les Européens.
Effectivement, l'Agence spatiale européenne a aussi des projets d'exploration de la Lune. Et d'ailleurs, le fait que l'ESA ait envoyé cette mission technologique qui s'appelle Smart One vers la Lune est un exemple de l'intérêt que l'ESA apporte à la Lune. Il faut bien voir que Smart One, c'est d'abord une mission technologique, c'est-à-dire que l'enjeu était de tester un certain nombre de concepts afin de les utiliser sur d'autres missions, en particulier un nouveau mode de propulsion. Et de ce point de vue-là, la mission a été un succès complet. C'est-à-dire que, effectivement, les tests technologiques qui ont été apportés par cette mission ont été positifs.
Alors justement, on va pouvoir parler un peu plus en détail de Smart One. Donc Smart One s'est écrasé le 3 septembre 2006, donc très récemment, sur la Lune. Cette sonde spatiale a été envoyée le 27 septembre 2003 par Ariane 5 depuis Kourou. C'est le centre spatial guyanais qui est le port spatial de l'Europe en Guyane française. Et alors avant de trouver sa cible, elle a entamé pendant plusieurs années un circuit elliptique. Elle a tourné plusieurs années. Comment ça se passe ?
Là, l'enjeu, c'était clairement donc de tester des nouveaux concepts technologiques et toute la science qui a été faite, c'est du bonus en quelque sorte. Les scientifiques ont tiré parti de cette opportunité pour essayer de faire le maximum d'observations de la Lune qu'on pouvait glaner à cette occasion. Mais il faut bien voir que la mission n'était pas programmée pour faire de la science. Donc c'est assez remarquable, je pense, qu'on ait d'une part un succès technologique et aussi, d'autre part, une information scientifique. Parce que la sonde spatiale donc embarquait également quelques instruments, une caméra et en particulier un analyseur d'éléments chimiques. Et les informations qui ont été fournies vont nous permettre de mieux comprendre la composition élémentaire chimique de la Lune.
Ce sont des éléments que nous n'avions pas encore à portée de main.
Alors, je pense que c'est d'abord les régions qui ont été observées ne l'avaient pas été avant. La Lune, évidemment, il faut une couverture complète, c'est quelque chose de difficile à acquérir. C'est les abondances relatives de ces éléments aussi qui apportent des informations nouvelles sur les processus de formation, d'évolution de la surface, etc.
Alors justement, parmi les observations qui ont pu être faites, a été identifié du magnésium, du silicium, de l'aluminium, du fer, et puis également du calcium pour la première fois dans la mer des crises et les montagnes alentours. Alors qu'est-ce que la mer des crises ? Est-ce qu'on parle vraiment de mer ou pas pour
Alors,
une lune ?
Attention, effectivement, le vocabulaire est trompeur. Mm-hmm. Il n'y a pas de mer sur la lune, hein, il n'y a pas d'eau liquide. La mer, ça traduit une surface plane qui résulte d'un épanchement du magma qui était en dessous et qui donc, qui étant visqueux, a pris la forme évidemment plane, qui a fait penser, qui évoque des mers, bien sûr. Mais il s'agit de surfaces solides, bien entendu, parce que maintenant tout ça est solidifié.
Alors qu'en est-il de ces éléments là, du magnésium, du silicium, de l'aluminium, du fer, du calcium ? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait de savoir qu'il y a ces éléments-là sur la Lune ?
Eh bien, ça permet, je pense, de retracer l'histoire du sol, du volcanisme, des impacts météoritiques. Ce sont des indices de l'histoire de la surface, en fait.
Oui, qui peuvent nous permettre de dire peut-être que la Lune, en fait, est un impact
alors,
de la Terre,
effectivement,
c'est ça
oui, mais je pense que c'est là encore le scénario de formation du système Terre-Lune auquel on est arrivé aujourd'hui doit beaucoup au modèle de simulation numérique. Mmh. C'est grâce à ces modèles, donc développés, comme je vous disais, au cours des vingt dernières années, qu'on a pu reconstituer l'histoire de ce couple, parce que pendant très longtemps, l'origine de la Lune a été une énigme.
Alors, reprécisons que la Lune est un satellite de la Terre. Hein.
Oui,
petite
tout à
précision.
Fait. Et même un satellite qui est très gros comparé à la Terre. On peut presque parler d'un système double par rapport aux autres satellites des planètes
oui.
géantes, par exemple. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire 100 millions d'années après l'origine de la proto-Terre, a eu lieu, très vraisemblablement, une collision entre la Terre, la proto-Terre, et un objet de la taille de Mars. Ces objets sont rentrés en collision, et la partie extérieure des enveloppes, si vous voulez, de ces deux corps, ont volé, j'allais dire, en l'air, ont été éjectés vers l'extérieur,
oui.
et ont formé une espèce d'anneau, tandis que les noyaux des deux objets ont fusionné. Donc pendant un temps, on a eu une proto-Terre avec un anneau de matière en orbite, et cette matière, comme elle provenait des couches externes, elle était moins lourde, si vous voulez, moins dense, je devrais dire. Parce que dans un objet comme la Terre ou un objet de la taille de Mars, les objets les plus lourds ont tendance à aller au centre,
oui.
et les objets les plus légers sont à l'extérieur. Et en fait, c'est cette évolution-là. Alors les modèles montrent qu'ensuite, ces petits objets qui sont en orbite autour de la Terre, ils se réaccrètent pour former la Lune. Et ceci explique pourquoi la Lune a une densité bien plus faible que celle de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre avec un autre scénario.
Donc la Lune s'est formée à partir des résidus, entre guillemets.
Oui, des couches extérieures de la Terre d'une part et de cet impacteur. Les modèles montrent que pour arriver à reconstituer un objet de la taille de la Lune avec la densité de la Lune, il faut mettre un objet qui fait à peu près la taille de Mars, c'est-à-dire une masse qui est le dixième de la masse de la Terre.
Donc trouver ces éléments tels que le magnésium, le silicium, le fer, c'est un indice pour créditer cette thèse de dire effectivement il y a eu cette collision entre la Terre et cet impacteur, comme vous dites.
C'est possible.
Alors, une autre observation qui était faite grâce à une caméra qui était à bord de cette sonde spatiale Smart One. Donc, des images ont été réalisées et ont pu être découverts deux pics de lumières éternelles. Alors, mm-hmm. qu'est-ce que sont les lumières éternelles, Thérèse Encrenaz ?
Il s'agit simplement d'une configuration géométrique qui font que certains points sont toujours en visée directe du Soleil.
Mais ça, on le savait avant ? Pas forcément ?
Disons qu'on connaissait peut-être pas suffisamment bien le relief, puisqu'il s'agit de surfaces de quelques kilomètres carrés, vous vous rendez compte, au pôle Nord.
Mm.
Je suis pas sûre que les données précédentes avaient réalisé une cartographie du pôle Nord aussi précise, je crois même qu'on est sûr que non. En fait, l'élément nouveau, ce sont ces données à haute résolution angulaire du pôle.
Donc
ça, c'est quelque chose de nouveau.
Donc ces deux pics de lumières éternelles, ce sont donc des zones qui voient toujours le Soleil.
Ce sont vraisemblablement des sommets. C'est un effet de relief, en fait. Et comme ils sont exactement au pôle, c'est ce qui explique le nom qu'on leur a donné.
Alors, finalement, actuellement, vous nous disiez que c'était une mission plus technologique
oui.
que scientifique. Qu'est-ce qui va en ressortir de cette mission ? Ce sera pour après travailler sur d'autres planètes encore plus lointaines
Oui, en fait, je crois que le résultat le plus important, c'est le test d'un mode de propulsion nouveau, qu'on appelle mode de propulsion ionique, qui ouvre de nouvelles perspectives pour les missions futures. En particulier, c'est un moyen qui permettra de se rendre plus rapidement à de grandes distances de la Terre. Et pour ça, c'est important que cette mission Smart One ait été un succès.
Alors, Thérèse Ancrenaz, il y a donc ces deux pics de lumières éternelles, mais il y a également un cratère qui, lui, en revanche, ne voit jamais la lumière.
Oui, ça c'est intéressant parce que ça peut apporter un élément nouveau à une controverse ancienne sur l'existence possible de glace d'eau sur la Lune. Des observations passées avec la mission Clémentine en particulier et la mission Lunar Prospector, je crois, son nom, avait signalé la présence possible de glace d'eau, ce qui surprenait bien sûr un peu tout le monde. Mais s'il s'agit de surfaces qui sont toujours à l'abri du soleil, alors ce peut être simplement les impacts de poussière cométaire, les impacts micrométéoritiques donc, qui s'accumulent tout simplement parce que, n'étant jamais en vision directe du soleil, ils ne vont pas s'évaporer, ils vont s'accumuler. Mais cela dit, si c'est le cas, il s'agit sans doute vraisemblablement de quantités extrêmement faibles.
Alors effectivement, dans ce cratère qui ne voit jamais la lumière, la température est estimée à moins de 120 degrés. Donc on comprend effectivement que l'eau soit au niveau liquide,
il faut qu'il fasse un peu plus chaud. Absolument, on peut très bien piéger la glace dans ces conditions.
Et alors, que sous-entendez-vous par quantité faible ?
Disons que les poussières micrométéoritiques, de toute façon, on a des estimations de ces poussières. Donc même en imaginant qu'elles s'accumulent... Je ne suis pas spécialiste de cette question, mais je ne pense pas que les spécialistes envisagent que ça puisse faire plusieurs mètres d'épaisseur. Si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez lu « On a marché sur la Lune », de Hergé, on voit Tintin qui glisse sur de la glace.
Oui.
Les astronomes ont souvent pensé que c'était une des très rares erreurs d'Hergé, parce qu'on ne pense pas qu'il y ait des quantités importantes de glace à la surface ou sous la surface de la Lune.
Donc même en ayant des pics de lumières éternelles, la vie... sur la Lune,
est mal partie,
ce n'est pas possible.
Oui, je crois qu'on peut dire ça sans risquer trop de se tromper.
Est-ce que vous connaissez l'agenda à venir pour l'étude spatiale européenne, par exemple ?
Alors, l'Agence spatiale européenne a un programme scientifique qui est bâti autour de deux types de missions. Les missions lourdes, qu'on appelle cornerstone, c'est-à-dire pierre angulaire, et les missions moyennes, dites missions intermédiaires, de classe intermédiaire, qui sont définis au cours de programmes à long terme qui engagent toute la communauté. Et on est justement actuellement dans cet exercice qui s'appelle Cosmic Vision, dans lequel un appel d'offres va sortir auquel la communauté scientifique va répondre. Et les scientifiques vont faire des propositions pour les missions à venir dans les 15 à 20 prochaines années.
Des appels d'offres auxquels vous avez participé ?
Moi, peut-être pas, mais mes collègues, certainement. Je n'aurai pas le temps de voir arriver une de ces missions du temps de ma carrière. Mes jeunes collègues, bien entendu, ils participent. Toute la communauté s'implique dans ce travail. Donc ça, c'est dans le cadre du programme scientifique de l'agence. À côté de ça, vous avez un nouveau programme qui s'est mis sur pied récemment, qui s'appelle le programme Aurora, qui est un programme technologique dont le but est de se donner les moyens d'envoyer un jour un homme dans l'espace. Et ce programme Aurora s'est fixé comme premier objectif la planète Mars et une première mission d'exploration de la planète Mars qui s'appelle ExoMars avec un atterrisseur, enfin un module de descente, doté d'un certain nombre d'instruments scientifiques parce qu'on fera un peu de science, bien sûr, avec
bien
ça.
Sûr.
Mais l'objectif premier de ce programme, c'est un objectif technologique. Et à côté de ça, comme je vous disais, l'ESA poursuit ses travaux.
Et là, nous sommes dans les années 2015-2020.
Oui. Pour ExoMars, on parle de 2011, mais personnellement,
2011.
Je pense que ce n'est pas réaliste. Je pense que ça sera plutôt la décennie 2010, disons.
Mais là aussi, c'est peut-être la course avec les pays concurrents, tels que les États-Unis.
Oui,
peut-être que l'ESA est en relation avec les Russes, sont en relation avec les Russes pour pouvoir travailler ensemble.
Oui, l'ESA, de toute façon, a une politique de partenariat. Mm-hmm. Elle a beaucoup travaillé avec la NASA. Le meilleur exemple, c'est la mission Cassini-Huygens vers Saturne et Titan. Donc ça, c'est un partenariat qui reste tout à fait d'actualité. Et aussi, l'ESA souhaite développer ses collaborations vers les nouveaux partenaires, que sont justement la Chine. Il y a une mission... avec l'Inde, avec une participation de l'ESA. Et les contacts sont pris aussi avec la Chine, le Japon et le Canada aussi, toutes les puissances, le Brésil. toutes les puissances qui manifestent un intérêt pour la recherche spatiale.
Alors, pour terminer sur cette petite émission, parlons peut-être de vos travaux à vous. Vous étiez au Chili il y a une dizaine de jours. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur l'objet de vos recherches. Que faisiez-vous au Chili?
Alors, j'étais au VLT, Very Large Telescope, qui est l'ensemble de 4 télescopes de 8 mètres que l'ESO, European Southern Observatory, a monté au nord du Chili, près du désert d'Atacama. Un site magnifique d'ailleurs, entre parenthèses.
J'imagine.
Et j'étais là donc avec deux collègues pour obtenir des images infrarouges d'Uranus et de Neptune.
Et de Neptune.
Alors vous allez me dire pourquoi des images infrarouges? Eh bien parce que l'imagerie infrarouge nous donne des cartes de température de ces objets. Et l'objet des recherches, c'était essayer de comprendre les variations temporelles de ces objets pour comprendre leur dynamique. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Essayer de mieux comprendre leurs phénomènes dynamiques et leurs phénomènes de photochimie. Parce que la photochimie, c'est quelque chose qui se produit sur les 4 planètes géantes. Ça tient au fait que le méthane, qui est après l'hydrogène le gaz le plus important, est dissocié par le rayonnement solaire. Et il produit toute une bande, une kyrielle d'hydrocarbures, à commencer par l'éthane, C2H6, l'acétylène, C2H2, etc., etc. Et ces molécules ont des comportements qu'on peut analyser par spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire l'analyse du rayonnement infrarouge en fonction de la longueur d'onde. Et en réalisant des cartes et en faisant des mesures espacées dans le temps, si vous voulez, on arrive à mettre en évidence des phénomènes dynamiques dans ces deux planètes.
Donc l'idée, c'est des mouvements, vous voulez dire?
Oui, il y a des mouvements, absolument. Il y a des mouvements verticaux, il y a des mouvements zonaux. On essaie de comprendre, en fait, pourquoi ces deux planètes sont si différentes. Et ça reste un peu une énigme, vu qu'elles ont des masses proches, elles ont des densités proches, elles se sont formées à des distances du Soleil qui ne sont pas tellement différentes, enfin un petit peu, mais pas. Donc voilà, c'était un peu le but de nos recherches.
Des recherches qui continuent encore.
Bien entendu.
Et quel serait l'aboutissement de ces recherches?
Eh bien écoutez, on va poursuivre ce programme-là. C'est d'ailleurs pas le seul, hein, puisque je suis aussi très impliquée dans des programmes d'exploration de Mars, en particulier avec la mission Mars Express. D'ici quelques années, un satellite va être lancé par l'ESA, qui s'appelle Herschel. C'est un satellite qui va être en orbite terrestre pour observer le ciel dans les ondes submillimétriques et millimétriques, c'est-à-dire au-delà de l'infrarouge lointain. Vous avez le visible, l'infrarouge et puis la radio. Et en fait, le submillimétrique, le millimétrique, c'est quelque part entre l'infrarouge et la radio. Et justement, on va utiliser Uranus et Neptune comme calibrateurs pour les autres objets. Et c'est important, très important, de bien connaître leur comportement. Donc, avec le satellite Herschel, on continuera nos observations aussi sur ces deux planètes-là.
Donc, en fait, les travaux sur lesquels vous travaillez au Chili, ce sont des étapes pour pouvoir, après, lancer ce satellite Herschel.
Oui, et ce que je voudrais dire aussi à cette occasion, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas suffisamment, c'est que les observations depuis le sol sont très complémentaires des observations spatiales. Parce qu'au sol, vous avez des avantages. Vous avez des instruments qui peuvent être extrêmement compliqués et lourds. Et vous pouvez intervenir, s'il y a une panne, vous pouvez intervenir. Quand vous envoyez un instrument dans l'espace, il faut que ce soit simple, fiable, robuste. Et la technologie doit être éprouvée. Ça veut dire qu'il y a un certain retard entre le moment où la technologie est prête et le moment où un satellite embarque toujours des instruments qui sont dépassés du point de vue technologique pour l'astronomie au sol. Donc c'est ça qui explique que les deux moyens, disons, des astronomes restent extrêmement complémentaires et les grands télescopes comme le VLT sont plus que jamais d'actualité.
Donc on ne peut pas se contenter d'envoyer des sondes ou des satellites. Il n'y a pas que le travail de fabrication
sondes,
il y a aussi tout le constat qui peut être fait, tout le travail effectivement au sol.
Voilà.
Eh bien merci Thérèse Ancrenaz de nous avoir apporté ces quelques éclairages sur cette question de la Lune, mais également de Neptune et d'Uranus. Merci beaucoup et à une prochaine fois peut-être.
Merci
pour une autre émission. Au revoir.